Alors que certains refont l'histoire pour pouvoir mieux s'y retrouver, il faut quelquefois revenir aux origines des choses, tout simplement, pour objectivement bien vivre au présent. Et au présent, c'est CMA. Bonsoir et bienvenue dans CMA, c'était mieux après, l'émission qui revient sur les origines des choses. Ce soir on vous emmène au théâtre côté jardin pour faire nos vœux à la reine en espérant ne pas faire chou blanc. Allez, hop, voici le sommaire. On commence avec le cachou, avec la jolie chronique, cachou la jolie, voilà, chronique, qui nous mettra en paix, n'est-ce pas Florian?
Bonsoir. Oui.
Bonsoir. On parle de quoi?
Eh bien, écoutez, ce soir, vous saurez tout.
Tout sur le chou.
Ah, sur le chou?
Eh oui, sur le chou. Ouais.
Très bien. Ok. On verra ça. S'il fut un temps où acteur et comédien étaient deux métiers distincts, aujourd'hui, nous faisons le mélange des genres. Mais peut-être que ce n'est pas si nouveau, n'est-ce pas, Olivier?
Oui, bonsoir tout le monde. Et je vais vous parler du cinéma, du théâtre, qui ont beaucoup d'interactions entre eux, quoi.
Ok. Alors ce soir, nous avons une reine avec nous. Elle sera, une fois de plus, la queen des ondes. De qui parle-t-on ce soir, Soso?
Eh bien, on parle de toutes les queens, mais surtout du plus beau groupe extraordinaire. J'ai nommé Queen.
Ah, on parle de Queen ce soir?
Oui, Queen.
Bon, bah écoute, c'est excellent. Une première partie bien remplie, et c'est sans compter sur la suite de l'émission, dans laquelle nous parlerons donc des jardins, de lune et même de vœux. Alors il est temps de commencer. Bienvenue dans CMA. Alors, un bateau, c'est chou, mais ce n'est pas le sujet. Non, ce soir, il va nous chouchouter avec un sujet pas chouant du tout. Voici la chouette chronique du choupinou Florian. Bon, pourquoi ce jingle? La soupe au chou, évidemment.
Mais le chou a inspiré quand même pas mal de choses, hein.
Ouais.
Dans la culture.
Bah, guerre et paix déjà.
Français, ça va. Oh.
On se nul, ça.
Voilà. Ça va. Okay. J'ai pas compris.
Ce sera coupé au montage.
Oui, je crois. Bon, alors, effectivement, je vous parle du chou.
Oui.
En tout cas, des choux, puisqu'il en existe beaucoup, 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 beaucoup dans le monde. Donc, le chou déjà appartient à la famille des crucifères.
Ah.
Voilà, c'est un peu le légume du démon.
Oui, ça fait un peu ça, ouais.
Ça fait Lucifer.
Oui, ça fait Lucifer.
Ben, ça fait Lucifer, ça fait crucifère, ouais. Ça fait la croix.
Ouais.
Ça aussi. Fait Jésus aussi d'ailleurs. Mm-hmm. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que en fait, elle pousse. Voilà, la fleur, en fait, elle pousse avec quatre feuilles de chaque côté, comme une croix, en fait.
Ah, d'accord.
Voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc c'est originaire d'Europe et notamment des régions littorales, puisque la base du chou, en fait, c'est le chou sauvage, et on l'appelle aussi le chou des falaises, parce que ça pousse en fait dans les dunes ou dans les bandes de galets et sur les falaises.
D'accord.
Ça, c'est le chou d'origine qui a donné naissance à tous les autres choux, en fait, qu'on trouve aujourd'hui.
Pardon.
Oui, c'est assez...
Il y aura beaucoup de mots chou hein, ce soir, je pense.
Oui, oui. Donc voilà, donc déjà à la préhistoire, on cultive le chou.
Oui.
Et puis les Romains, d'ailleurs, le consomment aussi dans l'Antiquité. D'ailleurs, ils pensaient que le chou permettait de lutter contre l'ivresse.
Bon, pourquoi pas?
Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, Caton disait, enfin, il donnait un conseil.
Comment il va?
Ah bah Caton, il va super bien.
D'accord.
Ouais.
Il est vieux.
Il est très vieux. Ouais, ouais. Donc il disait, si dans un banquet tu veux boire et manger beaucoup et avec plaisir, prends avant le repas du chou. Autant qu'il te plaît, avec du vinaigre. Oh. Et de même, après le repas, prends-en environ 5 feuilles, tu seras comme si tu n'avais rien mangé et pourras boire autant que tu veux.
Tu seras ballonné surtout.
Ouais. C'est un super conseil.
Ouais, super conseil.
Bon, mais ça cru.
Ah bah non, cru ou cuit, peu importe. Mais oui.
Il n'y avait pas de temps.
Mais il n'avait pas si tort que ça, parce que aujourd'hui, on sait que le chou a quand même des vertus assez intéressantes pour la santé. Parce qu'il est composé de beaucoup de soufre, alors on s'en doute un petit peu.
Vu l'odeur.
Voilà, merci Bruno. De calcium et de vitamines, aussi A, B1, B2, C, K et U.
Ah quand même.
Je ne connaissais pas les vitamines K et les vitamines U. Mais en vitamine C aussi, ça on le sait depuis récemment quand même, que le chou a de la vitamine C.
Moi je préfère prendre une orange, hein. Mais bon, après tu fais ce que tu veux.
Et donc ça lutterait contre les ulcères aussi, et en tout cas tout ce qui est digestion, estomac, ça a des vertus plutôt intéressantes, et en prévention du cancer aussi, donc notamment du côlon, estomac, rectum, poumon. Donc, manger du chou.
Okay.
On n'en parle pas assez, moi, je trouve.
On n'en parle pas assez.
C'est ça.
Et on n'en parle pas assez.
Ouais.
Donc, après les Romains, y a Charlemagne aussi qui recommande la culture du chou dans ses domaines. Et donc, le chou, c'est quand même un légume super cultivé, notamment chez les couches de population les plus pauvres, en tout cas les paysans, au Moyen-Âge.
C'est un légume d'automne, non, le chou?
C'est un légume qui pousse deux fois par an.
Ah d'accord, donc il est bien productif quand même.
Toute l'année, tu peux avoir du chou. C'est un peu comme le poireau, comme le navet, enfin d'autres légumes qui sont comme ça, qui craignent pas forcément le froid d'ailleurs.
D'accord. Et c'est là,
t'as pas besoin.
Et c'est la fleur qu'on mange du coup.
Alors, ça dépend. Ça dépend parce que justement, il y a plusieurs formes de choux. Il y a plusieurs choux. Alors, si je vous parle du Quintal d'Alsace, du précoce de Louviers, du pointu de Château-Renard, du Nantais hâtif.
C'est des copains à toi. Alors le Quintal, je vois après. Le précoce, c'est son problème.
Le pointu.
D'accord, aussi, on voit, ouais.
Donc ça, ce sont des variétés de choux cabus.
D'accord.
Le chou cabu.
Oui, ça m'a l'air.
Aucun rapport.
Ni avec un dessinateur.
Ou le chou paumé. Voilà.
D'accord, faut le retrouver.
Et en fait, c'est donc des variétés de chou blanc. Voilà. Tout simplement.
Ok.
Et on l'appelle un chou paumé, comme une pomme en fait, parce qu'il pousse comme une sorte de pomme en fait. Il est rond,
d'accord.
Comme le chou rouge d'ailleurs, c'est exactement pareil. Voilà, donc là on mange pas, donc là on mange les feuilles du chou.
Ok, qui sont recroquevillées quand même.
Qui
sont entouillées autour de la fleur.
Un peu comme ça, enfin qui poussent tous, un peu comme un oignon en fait, comme les lamelles de l'oignon.
D'accord.
Mais ça reste les feuilles. Ensuite on a aussi le chou frisé, donc ça c'est la base, ça c'est le chou d'origine, le chou frisé, aujourd'hui on l'appelle le chou cal, aussi, okay. Si vous connaissez, donc il a les feuilles frisées, et là on mange aussi les feuilles,
okay.
Puisqu'il ne pousse pas en pomme, il pousse sur une tige d'ailleurs, c'est un peu une tige.
Okay.
Si je vous parle du précoce, décidément, du précoce de Fontenay, du dur de Gélis, du nain de Lyon, du Lancelot ou du roi Arthur, ce sont des variétés de choux, bien sûr,
aussi.
Mais quel chou?
Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait. Non. Ah oui, il y a le chou rouge, il y a le chou de Bruxelles.
C'est le chou de Bruxelles.
Chou de Bruxelles.
Ah. Eh oui, le chou de Bruxelles. Alors le chou de Bruxelles, là, on mange.
Il est tout petit, lui.
On mange des feuilles.
Mais qui sont toutes petites.
Mais alors qu'ils sont toutes petites, effectivement, et qui poussent sur une tige. En fait, le chou de Bruxelles, ça pousse sur une grande tige.
D'accord.
Et vous avez plein de petits choux.
Plein
de petits choux qui poussent le long de cette tige.
C'est le pire truc qui existe au monde. Je pourrais jamais
manger ça. Ouais. Effectivement, depuis j'en ai jamais.
C'est gluant, c'est amer. C'est...
Effectivement, il y a eu sur la fin du XXe siècle, dans les cantines, il y avait pas mal de choux de Bruxelles. Souvent. Alors pourquoi de Bruxelles? Parce
ça
que c'est originaire de.
C'est clair.
Parce que c'est originaire de Bruxelles.
D'accord.
Okay. Et au XIVe siècle, en fait, les maraîchers, il y a eu un accroissement de la population, donc il fallait nourrir beaucoup plus de monde sur des surfaces réduites, et ils ont croisé en fait des espèces de choux et ils ont créé le chou de Bruxelles, donc qui pousse sur la tige et donc qui prend moins de place pour que ça pousse.
D'accord.
Qu'un chou qui pousse en feuille et qui prend de l'espace.
Ils n'ont pas une bonne idée ce jour-là.
Non, c'est sûr.
Après, ils n'ont peut-être pas été trop regardants sur le goût, effectivement, mais en tout cas.
Et pour finir, alors le chou qu'on connaît avec le blanc, là, avec. Ça, c'est la fleur, ça?
Alors, ça, c'est le chou fleur.
Ouais.
Alors, c'est pas tout à fait la fleur. C'est presque la fleur, le chou-fleur. En fait, c'est une pré-fleur. C'est une fleur qui ne va pas jusqu'au bout.
D'accord.
Et donc, en fait, on récolte avant que la fleur aille finalement beaucoup plus loin.
C'est comme un gros pistil,
dans
quoi.
Sa...
C'est pas fécondé, quoi.
Non plus. C'est-à-dire que ça va arriver en fleur, mais...
C'est un bourgeon qui est
mais
pas...
Mais on coupe avant.
D'accord,
voilà.
Bon. Okay.
Donc, il y a quand même les feuilles. Alors,
y en a plein, du coup, de couleurs, hein. De chou-fleur.
Alors, le chou-fleur,
blanc,
maintenant, effectivement, il y a blanc, il y a vert, il y a jaune, il y a rose, maintenant. Enfin, violet. Oui.
Ouais. Ah ouais. Et on les a en ornement aussi, souvent, on les voit dans les parterres de fleurs.
Et il y a des choux d'ornement aussi qui existent.
Oui, c'est utilisé, dans les décos. Ouais.
Tout à fait.
Eh bien, c'est chou, tout ça.
Voilà.
Merci, Florian.
On va parler du Chewbacca.
Alors,
c'est vrai.
Alors, près du micro, mais effectivement, le Chewbacca, on n'en a pas parlé, effectivement. Bon, allez, dans un instant, nous retrouverons le Graal, mais là, place au spectacle. Il existe plein de façons de raconter une histoire. Bien avant le livre, il y avait le théâtre, puis le cinéma, et aujourd'hui les jeux vidéo. Mais quand une même histoire passe d'un genre à l'autre, les résultats peuvent donner le meilleur comme le pire. Voyons cela avec le théâtre et le cinéma d'Olivier.
Il en a vu ce vieux théâtre, avec ses vieux fauteuils qui grincent. Il en a vu ce vieux théâtre, des maharajas, des rois, des princes.
Voilà, ne me demandez pas qui c'est, de toute façon, même si je vous donnais le nom, vous ne le trouveriez pas de toute façon. Hein, donc, voilà. Mais il parlait de théâtre.
Et oui, on connaît tous des pièces de théâtre à succès qui ont été adaptées au cinéma. Alors, on a notamment eu, pour les plus connus en France, il y a eu Le Prénom, Le Dîner de cons, La Cage aux Folles, Cyrano, Huit Femmes, toutes les pièces...
Le Père Noël est une ordure.
Voilà,
aussi.
Tous les films comiques des Bronzés et puis du Splendide, c'était des pièces de théâtre. Le Père Noël est une ordure. Les Bronzés, et puis Papier de la Résistance.
Ah ça, les Bronzés font du ski.
Les Bronzés,
je ne savais pas,
ouais.
Moi.
Ouais.
D'accord.
Non,
ouais, ça s'appelait Coquillages et Crustacés, la pièce de théâtre.
Okay.
Et puis même Papier de la Résistance, ça a été une pièce de théâtre à l'origine.
Okay.
Puis il y a eu tous les Bakri, Jaoui, Un air de famille, Cuisine et Dépendance. Mais ce n'est pas mon propos de ce soir, parce qu'à l'inverse, est-ce que vous connaissez des films qui ont été adaptés au théâtre?
Ah non. Alors, il y a des... La série. Je sais qu'il y a Columbo, mais je pense que c'était une pièce de théâtre avant d'être une série.
Alors, il y a deux grosses parties. Il y a vraiment les films d'art et essai, et puis il y a aussi tous les films qui ont été adaptés en comédie musicale, que je vais évoquer après.
Ok.
Alors, parmi les pièces de théâtre les plus connues qui ont été adaptées, il y a notamment Festen. Festen, c'est un film de 1998 de Thomas Wittenberg, où on suivait une famille suédoise à table. Et c'était les 60 ans du patriarche, et il y avait des révélations fracassantes du fils du patriarche. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais c'était fracassant.
Okay.
Et là, en 2003, il y a une adaptation française par Daniel Benoît, où là, en fait, donc on reconstituait une maison sur scène, quoi, une salle à manger, une cuisine et une salle de bain. Et puis, il y avait un chef opérateur qui était équipé d'une caméra mobile et qui traversait les murs, les fenêtres, et qui filmait les acteurs qui étaient en train de jouer, et au même moment, au-dessus de la pièce, on avait ce qu'ils filmaient. Donc on avait à la fois une pièce de théâtre, on avait à la fois le film.
C'était génial.
C'est vrai.
Ouais, pourtant, j'étais pas partie sur quelque chose de gay. Enfin, c'est pas que c'était gay d'ailleurs, mais j'étais là, oh là là, ça va être glauque, comment ils vont tourner ça, et c'était assez incroyable et bluffant.
Ouais, ça avait été un gros succès français.
Et c'était récent, ça.
Ouais, c'est assez récent.
Ah oui, non, je croyais que tu parlais de 2003, c'est pour ça.
Oui, mais ça a été repris à plusieurs reprises.
D'accord.
Après, ça a été adapté
c'est
aussi.
C'est génial.
Mais ça a commencé en 2003. Il y a eu aussi Sois la roue de Madison, le fameux film de Clint Eastwood avec Clint Eastwood et Meryl Streep. Ça a été repris en 2007 avec Feu Mireille d'Arc et puis Alain Delon au théâtre Marigny. Mm-hmm. J'ai même trouvé une adaptation québécoise de Intouchables en 2015 qui a été repris à Montréal. Oui, au théâtre.
Okay.
Et puis récemment aussi Le Lauréat. Un vieux film de 1967 qui a été repris par Kathleen Turner. Et puis l'adolescent qui joue dans American Pie. Mais ces derniers temps, en fait, on observe une recrudescence des adaptations de films en comédie musicale. À Broadway, on appelle ça des movie calls.
D'accord.
Donc c'est des shows très rentables et qui rapportent même des fois plus que les vrais films. Alors, on a avant tout les dessins animés, comme celui qui a eu le plus de succès, c'est le Roi Lion, Lion King.
Ah oui, effectivement, c'est une comédie musicale.
Qui est rejouée depuis quelques mois à Mogador, à Paris. Il y a eu aussi des films comme Ghost, Dirty Dancing, Sister Act. Alors, moi, je vais vous parler de trois comédies musicales qui ont eu plus ou moins un gros succès. Le plus gros succès de tous les temps, c'était Billy Elliot, qui a été repris entre 2015 et 2016 à Londres.
Et à l'origine, c'était un film ou
à l'origine, c'était un film, Billy Elliot.
Oui, d'accord. Je pensais que le film était pris de la pièce de théâtre.
Ah non, c'était vraiment un film, c'était adapté au théâtre, en comédie musicale. Ça a reçu 10 Tony Awards. Ça a été d'abord joué à Londres, et je ne savais pas, j'ai découvert ça il y a quelques semaines, il y a Tom Holland qui joue dans Spider-Man, qui a commencé tout gamin,
le
à 10-11 ans.
Le petit jeune
il a
qui
joué
dans
Billy Elliot, il jouait le rôle de Billy. Vous allez sur YouTube et vous le voyez chanter. Mmh. Donc ce mec a tous les talents. Hein.
Sachant qu'à la base, Billy Elliot, c'est pas quand même une comédie musicale, mais
ils l'ont transformé en comédie musicale. Ouais. Là, j'évoque vraiment les comédies musicales qui étaient avant des films. Quoi.
Est-ce que ça arrive que les acteurs de films se retrouvent dans la comédie musicale ou alors on refait le casting entièrement?
Ouais, généralement, on refait le casting entièrement. Il y a eu des gros flops aussi. Hein. Il y a eu Spider-Man, justement, Turn of the Dark. Ça a coûté, alors ça a eu il y a 10 ans, en 2011, ça avait coûté 75 millions de dollars de budget. Et c'était tellement coûteux d'assurer la sécurité des artistes, parce qu'il y avait pas mal de cascades, tout ça, que ça a été trop cher. Et en fait, ça a été démonté par la critique, parce qu'il y avait aussi une mauvaise qualité des chansons. Et voilà, un immense investissement pour un flop monumental.
Ça arrive.
Là aussi, Spider-Man, une adaptation d'un comics, d'un film, et puis finalement, du film. Alors, si on va voir, actuellement, je suis allé voir les sites qui vendent des tickets à Broadway, à New York, et puis aussi dans les quartiers londoniens, voir les comédies musicales qui marchent le plus. Là, actuellement, en Angleterre, il y a une comédie musicale qui joue depuis quelques mois, qui cartonne. Alors, c'est l'adaptation d'un film des années 80, peut-être le film le plus connu des années 80, un film de science-fiction qui se passe sur plusieurs époques.
Ah, Retour vers le futur.
Ouais, Retour vers le
futur. Il y a une comédie musicale Retour vers le futur.
Ouais, ça vient de sortir, c'est sorti en juillet dernier. Et ça va être, enfin pas diffusé, mais présenté jusqu'en juillet prochain.
D'accord.
Et apparemment, ça joue à guichet fermé.
Et c'est le 1
Et ça, c'est à Londres.
C'est le 1.
Et apparemment, si vous voyez les extraits, ça a l'air, ils ont vraiment reconstitué toutes les scènes du film.
D'accord.
Ouais, c'est assez impressionnant. Ils ont reconstitué la mairie avec l'horloge et tout. Et puis on voit la DeLorean, tout ça.
Je pense que tous ceux qui y vont, effectivement, connaissent le film. Donc là, il ne faut pas se rater.
Ça a l'air vraiment assez bluffant.
Ouais.
Et puis à New York. Alors là, c'est la comédie musicale qui cartonne depuis 2 ans. Là aussi, une dizaine de Tony Awards remportés l'an dernier. C'est le film adapté de la comédie musicale, inspiré d'un film de Baz Luhrmann, qui était sorti en 2001. Un film avec Nicole Kidman et Ewan McGregor. Moulin Rouge.
Ouais.
Et ça, c'est ce qu'on appelle une comédie jukebox. Alors, c'est comme le film. En fait, on utilise des chansons existantes pour servir l'intrigue. J'ai eu pas mal de chansons comme ça. C'est un peu comme on fait avec Abba.
Comme tous en scène au cinéma en ce moment.
Avec Aznavour aussi, exactement. Quoi. Voilà, donc c'est les deux grosses comédies musicales à voir. Alors Moulin Rouge joue aussi à Broadway. Enfin, c'est un peu compliqué. Parce que généralement, c'est les mêmes comédies musicales, mais c'est avant tout, new-yorkais, Moulin Rouge. Quoi.
Alors, c'est pas une comédie musicale, mais à Londres, il y a Harry Potter qui tourne encore. Donc là, c'est tiré du film.
Ça, c'est tiré. Alors, c'est pas tiré du film. C'est tiré. Ça a été. Non.
C'est tiré d'un livre qui a été fait exprès.
Voilà.
Inspiré de. Donc tiré d'un livre.
Il y a une pièce de théâtre qui a été écrite.
D'accord.
Et puis qui a fait l'objet d'une pièce de théâtre.
D'accord. Donc on l'a jamais vu en film.
Peut-être que là, on aura l'adaptation
en film.
Ah, peut-être. Harry Potter. Ce livre-là, il traite de l'enfant d'Harry Potter.
Ah oui, d'accord. Donc ce serait jouable avec les acteurs. Ok,
voilà.
Très bien. Bah, écoute, merci Olivier pour toutes ces informations. Dans une minute, on écoutera de la bonne musique avec Sonia. Enfin, on espère. Mais avant, c'est l'heure du Graal. On nous a demandé qui était le personnage sur le pont de Verdun au centre de la ville d'Angers. Vous le connaissez? C'est qui?
Beaurepaire.
C'est Beaurepaire. Bah, on va savoir tout avec le Graal.
Elle représente qui la statue sur le pont de Verdun à Angers?
Quoi? Tu ne connais pas Nico? Un héros de la Révolution? Bon ok, l'histoire finit mal. En 1791, il y a 230 ans quand même, Nicolas Beaurepaire devient lieutenant-colonel du 1er bataillon des volontaires de Maine-et-Loire, en jet. Hein. Et tout ça en n'étant même pas angevin, trop fort. Mais bon, on n'est pas nommé pour enfiler des perles, alors quand en 1792 la guerre éclate, on renvoie toute cette belle garnison de 6000 hommes à Verdun. Mais voilà, ça ne se passe pas bien. Pas bien du tout même. L'armée prussienne assiège la ville. Mais Nico ne cède pas. Et non, on résiste. Du coup, il se fait bombarder. Devant la panique générale, tout le monde est d'accord pour se rendre. Tout le monde, sauf Beaurepaire, qui reste droit dans ses bottes. On le retrouve alors mort dans son bureau. Suicide ou meurtre, on ne sait pas. Mais vous pouvez toujours saluer son courage et sa poutre apparente quand vous passez sur le pont de Verdun à Angers.
C'était le Graal, à voir en vidéo sur les pages Instagram et Facebook. Question Graal, vous pouvez nous poser vos questions depuis le site radio-g.fr, rubrique contact. Allez, on poursuit CMA sur Radio G, Fréquence X, Spotify et les podcasts plus de radio-g.fr. Et il est temps de parler musique maintenant dans CMA. De parler, mais aussi d'écouter. Et qui de mieux qu'une reine pour couronner de succès une histoire mythique. Voici la chronique de Sonior.
Ça, c'est de l'entrée en matière. Ah bah. Merci Bruno. Alors on y va. Quoi de mieux pour commencer cette année 2022 que je vous souhaite bien sûr rayonnante et heureuse que de se réécouter des autres phares et éternels d'un groupe mythique des années 80, un groupe qui a déjà fêté ses 50 ans. Eh bien oui, il s'agit de Queen. Donc même après, même 30 ans après le décès de Freddie Mercury, donc c'était en novembre 91, l'extravagant, charismatique et emblématique chanteur de Queen, eh bien le parcours du groupe est parsemé quand même de tubes éternels qui restent quand même, je dirais, dans toutes les mémoires. Mm-hmm. Donc aujourd'hui encore, son aura demeure intacte. Alors Queen a quand même été considéré comme l'un des plus grands groupes de rock de l'histoire. Alors on va faire un petit rappel. Alors Queen, c'est quand même un groupe de rock britannique qui est originaire de Londres. Il s'est formé dans les années en 70 spécifiquement, donc avec Freddie Mercury le chanteur. Il y avait Brian May, Roger Taylor, et puis l'année suivante est venu le quatrième larron, le bassiste John Deacon, pour compléter la formation. Donc les membres de Queen donc, étaient quatre, et donc tous étaient auteurs-compositeurs, donc ils avaient tous effectivement une part importante dans ce groupe. Donc avec Queen, difficile de ne pas user de superlatifs, le groupe était effectivement mené par Freddie Mercury, cette rockstar, ce chanteur à la voix hors du commun, donc baryton chantant comme un ténor, au timbre tout simplement inimitable. Et donc ce que je vous disais, c'est que voilà, 30 ans après sa disparition, eh bien, le groupe ne cesse et continue d'accumuler les records. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, d'autant plus avec le film qui est sorti en 2018. du coup, avec le film Bohemian Rhapsody, donc ça a relancé en tout cas la fascination et on a pu réécouter encore plus, je dirais, le répertoire du légendaire groupe anglais. Alors cette fascination, c'est aussi, je dirais, l'affaire de ses chansons, hein, puisque je pense que tout le monde s'en souvient, mais... Il y a une chanson particulièrement, moi, qui m'a marquée, et peut-être vous aussi. Donc, c'est la musique et la chanson Bohemian Rhapsody qu'on peut écouter là en ce moment. Donc, c'est un mélange quand même sur près de 6 minutes, un mélange des Beatles, d'opéra, de hard rock. Donc, on passe, je dirais, sur différents niveaux sur cette chanson. Je réécoutais encore hier soir et je me dis, mais ils sont barrés, quoi, et c'est génial. Donc, du coup, la maison de disques, à la base, ne voulait pas en entendre parler de cette chanson. C'était trop long, 6 minutes, voilà. Et finalement, du coup, ils l'ont quand même passé et il faut savoir que leur... leur album A Night at the Opera, donc c'est l'album quand même qui a été le plus tiré et qui a fait les plus grosses ventes dans l'histoire du groupe. Mama, life is just...
Really matter. little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo Figaro,
Magnifico.
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah,
no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let him go!
Bismillah,
we will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Never let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Alors, des petites infos générales sur, sur le groupe. Donc, Freddie Mercury, quand même, je ne sais pas si vous le savez, il a sa statue qui est érigée depuis 1996 en Suisse.
Ah, oui.
Voilà.
Lui, ce n'est pas une moto au bout d'une perche. Hein. Il a vraiment sa statue, lui.
Il a une statue. Depuis juillet 2020, à l'instar des Beatles et des Pink Floyd, eh bien, il y a des timbres à leur effigie. Donc, on va entendre en Angleterre. Ah. Ce n'est pas très vieux pour autant, mais voilà. En 2016 également, il y a un chercheur en neurosciences, en neurosciences des Pays-Bas, qui a établi une formule évaluant la capacité d'une musique à mettre de bonne humeur. Et selon vous, quelle est la chanson qui met de bonne humeur? Il nous en avait déjà parlé.
Bah oui, parce qu'on l'avait en générique même une année.
Voilà, ouais, est-ce que vous vous souvenez?
Don't Stop Me Now.
C'est ça, voilà. C'est ça, Don't Stop Me Now.
C'est ce qu'on écoute en fond là.
Voilà. Donc, pas étonnant, donc elle est dépassée aussi en 2021, le milliard d'écoutes sur Spotify. Hein. Mmh. Donc, encore un record qui alimente la fascination pour Queen. Et puis également, là en novembre dernier, il y a un coffret contenant 18 vinyles qui est ressorti, parce qu'apparemment, on ne pouvait plus forcément trouver leur disque vinyle. Donc, du coup, ça a été réédité. Donc, un coffret de 18 vinyles colorés avec tous les albums du groupe sont ressortis. Et puis, pour finir, hein, pour les adeptes, les aficionados, les fans de tout temps, eh bien, en 2022, Queen reprend la route hein, en Europe parce qu'ils ont dû... Alors, quand je dis reprend la route, c'est-à-dire qu'avec deux membres, le guitariste Brian Bay et le batteur Roger, et il y a un nouveau chanteur, Adam Lambert, ils vont réaliser leur tournée européenne. Qui avait dû être reporté à deux reprises du fait du Covid.
Aussi.
Donc cette année, si ça vous intéresse, eh bien, vous pourrez les retrouver à partir du printemps en tournée en France et en Europe.
The show must go on.
Et the show must go on, tout à fait.
We will rock you. Sing it.
We will.
Et voilà, c'était Queen. Merci en tout cas, Soso, pour nous avoir fait revivre toute cette aventure de ce groupe. Allez, on continue maintenant l'émission. Et ben, allez, hop, voici le sommaire. Il suffit de se pencher avec un pantalon taille basse pour la voir. On a hâte. Bonsoir Cisco.
Salut.
De quoi nous parles-tu ce soir ?
De la Lune.
Ah !
Je vais parler de l'importance de sa présence autour de la Terre et de son impact dans nos vies.
Oh, on verra ça tout à l'heure. Il nous reste encore quelques jours pour faire nos vœux. Mais on n'en peut déjà plus des bonnes années. Et c'est pas nouveau. On voit ça avec toi Sandra ce soir.
Eh oui, pas de bonne année sans carte de vœux.
Ah, on parle des cartes de vœux. D'accord. Dans chaque ville, il y en a. C'est une vitrine naturelle, et ce depuis très très longtemps. Quel est ton jardin secret, Robin ?
Ah mais moi je vais vous parler d'un endroit où il y a des statues, des canards, des chèvres et 4 hectares de verdure en plein centre-ville.
Chez Bruno,
c'est
j'adore.
Ouais, c'est mon jardin. Ouais.
Mon Dieu, non, je vais vous parler du jardin des plantes.
Ah bah oui.
Ah bah oui, effectivement. Allez, encore une demi-heure bien chargée, bah on commence tout de suite avec la deuxième partie de CMA. Elle ferait pousser les cheveux et accoucher les femmes. Elle perturberait nos nuits et ferait chanter Garou avec un loup. Il lui est arrivé de coucher avec elle en la regardant et en rêvant. Ce soir, il revient sur ses origines. Voici la chronique de Cisco.
J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas.
On ne recule devant aucune facilité dans cette émission, mais non, tu aurais pu avoir Amel Bent. Donc,
oui, ça aurait pu. Hein.
Hein,
je
voilà.
m'attendais, honnêtement.
C'est moins pire.
Merci. Merci Bruno pour ce lancement aussi précis qu'une fusée Ariane 5.
C'est ça.
Nous allons donc parler de la Lune. Et comme j'ai compris la dernière fois que je suis venu que c'est une émission interactive, j'ai prévu de faire participer tout le monde pour qu'on essaie de comprendre tous ensemble l'importance de notre petit satellite naturel. Enfin petit, est-ce que d'ailleurs vous connaissez la taille de la Lune ? Son rayon, en kilomètres.
Celle de qui ?
Non, la taille de la Lune, notre satellite naturel, je l'ai dit tout à l'heure.
Un tiers de la Terre ?
Ouais, t'es pas loin.
Ah oui, c'est quand même ah oui, c'est pas mal quand même un chiffre.
Ah bah non, on n'a pas de chiffre. Pas de chiffre comme ça. Alors la Terre, elle fait 6371 km de rayon.
D'accord.
Donc la Lune, sachant qu'elle est 3,7 fois plus petite que la Terre.
Donc on divise par 3 le chiffre, voilà.
Ouais, elle fait 1737,4 km.
D'accord.
Voilà, donc elle est donc quand même bien plus petite que la Terre. Et c'est d'ailleurs pour ça que sa gravité est moins puissante que celle de la Terre, puisqu'elle représente un sixième de la gravité terrestre.
Du coup, on est tout léger là-bas.
Ouais, c'est ça.
Ah, faut y aller après les fêtes.
On peut faire des bons.
Ouais.
C'est trop bien.
C'est cool.
Je te conseille d'y aller, c'est sympa. Concernant son poids, le poids de la Lune.
On ne demande pas son poids à une dame, voyons.
Ah, ouais, voilà, c'est vrai.
Bien vu. Non, mais le poids de la Lune, à peu près au kilo près. Allez, au million de kilos près.
T'as trouvé une balance ?
Ouais.
Ok.
Ouais. À l'œil, en fait.
Bon, bah vas-y, en milliards de tonnes.
Alors, je te le fais, il est très précis. 73 373 730 793 593 biliards 500 millions de kilos.
Oh, elle a grossi un peu, non ?
Elle a pris un petit peu de poids ces derniers temps. Ouais.
Ça doit être l'effet, je pense. Le poids n'existe pas, hein, parce qu'on est
vraiment...
C'est la masse. Merci, Jamy. Exactement.
On est à la masse.
Ce qui représente donc 1% de la masse de la Terre.
D'accord.
Qui fait donc la Terre. Je l'ai pas le chiffre.
Ah, quand même.
Donc elle est plus légère que notre planète.
Ok.
Donc voilà. Quel âge elle a maintenant ?
Bah, l'âge de notre planète ?
Eh bah, non.
Un peu moins.
Non,
elle doit être plus
un
jeune.
Un peu moins, ouais. Elle est un tout petit peu plus jeune.
Enfin, elle est plus jeune.
Apparemment, elle est quand même un peu plus jeune que Bruno. Mais l'âge de la Terre, c'est 4,54 milliards d'années.
Ouais.
Et la Lune ?
Ouais.
3 milliards d'années.
Ah, un plus quand même. Plus vieille que ça.
4,24.
51. 4,51 milliards d'années. Ouais, c'est ça. Bah oui, ouais. C'est interactif. Il s'est donc passé 3 millions d'années où notre petite planète n'avait pas de satellite.
Ah oui.
Eh ben ouais.
D'accord.
C'est pendant ces 3
millions. Mais comment on faisait pour se couper les cheveux ?
Bah oui. Ah ouais,
mais comment on faisait pour accoucher ?
Bah la Terre, ça ressemblait pas du tout à ce qu'on avait maintenant.
Ah, il y avait moins de coiffeurs.
Ou déjà.
Déjà.
Il y avait moins d'eau.
Aussi.
Moins de vie.
Ah oui.
Il y avait plus de cailloux et de lave.
D'accord. Ouais, donc du coup, on dormait mal de toute façon.
Voilà. Dans tous les cas.
Lune ou pas.
Bah justement, comment elle s'est formée, la Lune ? Alors, on n'est pas encore sûr à 100% de comment elle est née, mais bon, apparemment, la majeure partie des astrophysiciens sont d'accord sur le fait qu'il y a environ, du coup, 4,51 milliards d'années, un objet de la taille de Mars serait venu heurter la jeune Terre, qui était justement en formation. Ce sont les débris de cet impact géant qui auraient abouti à la formation de la Lune.
D'accord, donc c'est un morceau de Terre.
Ouais, et d'un autre astre qui était aussi en formation, comme la planète. Donc on s'est fait rentrer dedans par une autre planète en formation, et ça a donné la Lune.
D'accord.
Voilà, globalement.
D'accord.
Quel est le rôle de la Lune, du coup ? Est-ce qu'il y en a qui savent?
Bon, bah, le rôle. Après, on ne sait pas si c'est un rôle ou pas, mais
les marées déjà. T'as les marées. Les marées, c'est évident. Donc, lors de sa formation, la Lune nous a protégés d'un paquet de météores qui nous fonçaient dessus. Donc, elle nous a servi de bouclier.
Ah ouais, elle est arrivée au bon moment, au bon endroit, elle s'est tombée sur la Lune.
Bah, c'est pour ça qu'on peut voir pas mal de cratères maintenant, en fait. Ouais. Elle a pris quand même pas mal de météores dans la tronche.
Ah oui, c'est elle qui se prend tout, effectivement.
Ah ouais, c'est un peu ça.
Ouais, et d'ailleurs. Surtout qu'elle n'a pas d'atmosphère.
Bah oui,
bah non. Donc bah, quasiment pas, en fait.
Ouais, quand ils arrivent,
pour la protéger. Elle se les prend en pleine.
Oui.
C'est cool.
Le dernier, je crois que c'était il y a 20 000 ans. Tu vois, c'est pas récent.
Ah oui.
C'est pas tous les jours, quoi.
Ça va.
Ouais, parce que si on veut y habiter, quand même, c'est un peu.
Ouais, si on peut éviter de se prendre un météore.
Oh, il pleut.
On a évité de sortir aujourd'hui. Restons à l'intérieur. Et d'ailleurs, fun fact, j'ai trouvé dans mes recherches qu'elle a même joué un rôle pour débloquer le canal de Suez en mars 2021.
Ah bon ?
La Lune. Ouais, enfin plus précisément grâce à son phénomène. Voilà, exactement.
Ah,
grâce à la pleine Lune, la marée était bien plus forte, ce qui a permis au cargo échoué d'être davantage immergé, ce qui a facilité son extraction et donc le déblocage du canal de Suez.
Ah,
bravo la Lune. Merci. Peut-on vivre sans la Lune ? Alors, question oui ou non ? Faire un tour de table.
Je dirais non.
Mais on est tellement habitué que maintenant,
moi,
c'est stressant.
Parce qu'il doit y avoir des reflets du soleil qui nous donnent l'énergie, ou enfin du style de la vitamine D. Ou, enfin,
ouais, ça peut être un argument.
Ce genre de truc.
Mais non, du coup.
Donc non, non
bah,
plus.
Non, plus. Parce que je pense qu'elle a créé quand même la...
Ouais.
Elle a créé les conditions de la vie sur Terre, en partie.
Et puis c'est un équilibre avec la Terre. Je pense que la vitesse...
Et bah, tu viens de parler d'équilibre. Oui. Exactement, c'est la raison principale pour laquelle on ne peut pas s'en passer.
Bon, je dirais pourquoi tout à l'heure je sais ça.
D'accord, ok. Ça nous intéresse de savoir pourquoi tu connais si bien la Lune.
Magnifique.
Donc la Lune contribue à l'habitabilité, attention, mot très compliqué, de notre planète, car elle modère l'oscillation de la Terre sur son axe, ce qui lui permet d'avoir un climat assez stable. L'axe de la rotation de notre planète est actuellement de 23,4 degrés. Mmh. C'est à peu près ça.
Ah oui, c'est très radiophonique, ça.
À peu près. Oui, bah oui, c'est bon. Bah, voilà. Bah, vous prenez un...
Oui, non, mais c'est bon, c'est bon.
23,4 degrés. Sans la Lune, la rotation de la Terre serait donc déstabilisée. L'impact sur le climat serait important et nous pourrions dire adieu aux saisons. Donc plus de choux. Enfin, si.
Ah bah, il y a plus de saison déjà.
Oui, il y a plus de
saison, ma pauvre dame.
Ça, c'est très jeune comme expression.
C'est pas grave.
Il n'y a plus de saison. La Terre pourrait donc se coucher complètement sur le côté.
Oh là là,
elle tombe sur elle-même, en fait. Avec ses pôles exposés à la chaleur et son équateur refroidi, ce qui entraînerait sur le long terme un dérèglement climatique majeur et peut-être même l'extinction de certaines espèces sur Terre, comme l'homme.
Ta-da-dan.
Merci la Lune.
Ouais.
Voilà.
Eh ben écoute, c'était très intéressant.
Écoute.
Bon alors j'ai écrit un livre sur de science-fiction et qui parle de la Lune et justement avec la disparition de la Lune et ce que les effets que ça faisait sur la Terre.
Ah oui.
Voilà.
D'accord. Ça s'appelle comment ce livre ?
Ça s'appelle Antimate. C'est plus. Alors faut le demander à la Fnac, mais faudrait qu'il soit réédité parce que ça fait quelques années déjà. Mais...
Ah d'accord. Bon,
bah, voilà.
Allez lire le livre. Alors,
du coup. Faut lire
Je
mon
me souviens
livre.
Plus que ça parlait de la Lune.
Bah si.
Un peu.
Tu l'as lu, c'est bien. Je m'en souviens plus.
Oh, la tristesse. Il y a longtemps, faudrait que je le relise.
Tu vois. Ben voilà, relis-le.
Relis-le. Hein.
Mais par contre, ça cale une armoire, va falloir un petit peu que tu déménages les choses qui sont chez toi.
Okay.
Allez, merci Cisco. Alors, un sujet à la carte maintenant. Ben voilà, tout simplement. Alors, avec un beau jingle. Hein. Oui, je me suis
excusé. Allez, j'attends mon jingle avec
D'accord.
impatience.
Eh, oui, oui, oui. Voici la chronique de Sandra.
Et toi de bois.
Voilà le nouvel an et les bonnes résolutions. L'année, j'espère qu'elle sera rigolote, mais en attendant, éclate-toi dans ma culotte.
Voilà.
C'est un peu ça.
Et on fait
bon courage,
Harriet. C'était voilà. l'ambiance.
Alors, on l'attend impatiemment tout le mois de janvier dans notre boîte aux lettres, comme les images qu'on découvrait dans notre tablette de chocolat, les yeux émerveillés. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
On l'attendait,
c'est juste.
Effectivement, et c'est mieux. Ouais.
Je vous parle d'une tradition qui se perd, les cartes de vœux. Elles brillent de paillettes dorées ou argentées, nous montrent des paysages de neige. Ah, la neige, un paradis perdu avec le réchauffement climatique. Elles nous offrent des fers à cheval, des trèfles pour la prospérité. On en a bien besoin en ce moment avec la hausse des prix, mais les soldes arrivent, hein, profitez-en.
C'est joyeux ton début de chronique, dis donc.
Et bonne année.
Ouais, c'est ça, et bonne
Elle
année,
nous offre du gui pour s'embrasser et porter bonheur. Bon, si vous voulez rester en bonne santé en ce moment, il vaut mieux éviter.
Le chou,
on l'a toujours dit.
Même les recevoir et les exposer dans son salon. Elles sont avant tout une marque d'affection de la part de nos proches, famille ou amis. Alors oui, nos boîtes aux lettres ne débordent plus effectivement de ces jolies cartes. Le plus souvent, nous sommes le 1er janvier 2022 à minuit 10 et nous avons reçu tous nos messages SMS bien vite expédiés de bonne année avec un gif animé de temps en temps.
Même ça, je pense que ça se perd
pour les plus vieux.
Oh, bon. Même ça se perd. Alors ça veut dire qu'il n'y a plus de bonne année,
sous non, bah non.
C'est encore pire. Non.
Moi j'ai fait l'ermite.
Il n'y a rien eu cette année.
Moi j'ai fait l'ermite, j'ai rien envoyé, pas grand chose.
Même pas en mail, rien du tout.
Qu'est-ce que tu veux dire cette année?
Bonne santé, on évite quoi. Maintenant on dit plus.
Mais
vu l'année 2021 qu'on a passée, on n'ose plus rien.
Bon courage.
Alors j'ai envie quand même de vous faire rêver, de vous raconter l'origine des cartes de vœux.
Ok.
La carte de vœux est née au 19e siècle au Royaume-Uni grâce à l'apparition du premier timbre poste en 1840, appelé le Penny Black. Ce timbre représente le portrait de la reine Victoria sur fond noir et vaut un penny. Oui. Et aujourd'hui, il vaut 3000 euros.
Ah oui!
C'est le premier timbre poste, en fait, qui est apparu. En même temps, on assiste à l'invention de la lithographie, qui est une technique d'impression qui permet la création et la reproduction de multiples exemplaires d'un dessin exécuté à l'encre sur une pierre calcaire. La première carte de vœux a été envoyée par Henry Cole, un fonctionnaire britannique qui avait commandé sa carte de vœux.
Ah, c'est un prénom.
Voilà.
Ah oui, Henry Cole.
En 1843, donc 3 ans après que la lithographie et le timbre poste soient apparus. Donc celle-ci représente la famille qui trinque pour les fêtes. Et on appela à ce moment-là les cartes de vœux Christmas card, car celle-ci était envoyée vers Noël pour souhaiter à la fois un joyeux Noël et une bonne année. Les deux à la
d'accord.
fois.
D'accord, faisait ça.
Oui,
mais en Europe, en tout cas en France,
et donc on avait le droit
on
les envoyer.
Distingue les deux.
On avait le droit de les envoyer à partir du 25.
Oui, voilà,
alors
c'est
que
ça.
Nous, il faut attendre quand même
nous,
le 1er.
Voilà, nous, on distingue les deux.
Il y a des règles pour ça.
Je sais pas. Mais pas en Angleterre. En Angleterre, on peut envoyer tout en même temps.
C'est des fous.
On envoie rarement des cartes de joyeux Noël.
En Angleterre, si, apparemment, mais pas chez nous.
Toi, tu ne le fais pas, mais...
Oui, c'est vrai.
Alors, pour la petite info, cette carte aussi, la première carte de Henry Cole, là, le fonctionnaire britannique, il est devenu la plus chère du monde en 2001, remportée aux enchères à 26 960 euros.
Ah ben, ça fait des choses sympas.
Bon, ça va.
La belle étrenne.
La carte de vœux, au début, bah, les étrennes... alors, je crois que les étrennes, ça a été inventé par les Romains. C'est ce que, voilà, c'est ce que j'entends.
Ok.
Mais pas la carte de vœux. La carte de vœux, c'était vraiment au Royaume-Uni.
Henri Cole. Pas de timbre, les Romains. Donc, ils pouvaient pas
remplir. Ah bon, plus.
Carte de vœux.
C'est vrai.
Il y avait des choux, par contre.
Bonne remarque.
Puis, je sais pas, tu reçois une plaque de marbre. Oui. Bonne année.
La carte de vœux était au début, une création, était un luxe, en fait, qui se popularisa vers les années 1930. Et avant d'être de grandes et belles cartes postales, en fait, c'était des cartes de visite qu'on donnait. Des petites cartes de visite, quoi. Qu'on déposait chez le concierge pour donner avis de son passage.
D'accord.
Parce que, en effet, la tradition ancestrale pour les 15 premiers jours de l'année, c'était de visiter ses proches, amis, famille, collègues aussi, et même de rendre visite aux pauvres et aux malades, pour faire preuve de sa charité et montrer sa présence.
On peut même plus. On n'a plus le droit.
Hein. C'est vrai, on n'a plus le droit.
C'est pas très Covid.
Et finalement, la carte de vœux fut un formidable moyen de s'épargner de cette corvée. Parce que pendant les 15 premiers jours, il fallait aller...
Corvée, carrément.
Voilà. Bah, pour certains, c'était contraignant.
Il faut les écrire quand même. Il faut trouver des trucs à dire.
Mais sinon, à partir des années 60, les cartes de vœux seront plus gaies, plus joyeuses, avec un brin humoristique. Il faut donc noter que la carte de vœux était et reste toujours un moyen de reprendre contact avec des personnes éloignées, de se réconcilier, de se rappeler aux bons souvenirs. Et en Asie, c'est-à-dire avant l'invention de la carte de vœux, en fait, la tradition était de participer à une foire professionnelle le 1er janvier, afin de s'échanger des cartes de visite. Pour ça, c'était les cartes de visite avant la carte de vœux.
Il y a toujours le côté interaction. En fait.
Ouais, on devait être frais le 1er janvier pour se vendre.
Et on écrivait aussi des vœux sur du papier de riz. Et plus la personne était importante, plus la feuille de papier de riz était grande. Voire elle pouvait être très très grande. Je ne pouvais pas terminer cette chronique sans vous parler de cette anecdote, la carte de vœux, on va dire, engagée et politique. En décembre 2019, une fillette britannique ouvre une carte de vœux pour écrire dessus et envoyer ses vœux, et y découvre ce message. « Nous sommes des prisonniers de Shanghai, forcés de travailler contre notre volonté. S'il vous plaît, aidez-nous et prévenez une organisation des droits de l'homme. » Donc après enquête, il se trouve que c'était une histoire vraie et que en fait, c'est pas la première fois que des prisonniers...
envoyaient cette bouteille à la mer.
Ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est exactement ce que j'ai noté. Une carte de vœux peut aussi être une bouteille à la mer.
D'accord.
Et
parce que c'est eux qui
l'ont fabriqué. Parce qu'en fait, ça se fait par l'eau et puis du coup, bah, certains notent leurs mauvaises conditions.
Ok. Et c'est cool. Hein.
Donc pour terminer, juste ma petite fin quand même. Voilà une nouvelle année débute, et pour qu'elle commence sous les meilleurs auspices, je proclame haut et fort, je veux. Je veux une carte de vœux. Et en plus, ça vous évitera de me rendre visite. Et c'est mieux en temps de Covid.
Oh, c'est mignon.
L'appel est fait.
Ouais. Voilà. Mais t'en as eu une de CMA, hein. Tu l'as reçue.
Oui, oui et voilà. J'ai une petite carte.
Oh, elle a une carte pour nous. Oh,
une ancienne.
C'est mignon. Ah, une ancienne carte. Ah, ouais.
Le monopole des chats, déjà.
Ouais, ah, oui, voilà. Avec un petit chaton. Ah, il y a tout là. En plus.
L'engagement politique avec
le gros.
Il y a des roses. Elle a pas de prix parce qu'elle a un prix dans son cœur.
Il y a même affaire à cheval, ça va nous faire
un prix. Je me souviens au début d'Internet, j'étais tombé sur un site où on pouvait envoyer des cartes de vœux.
Des dromacartes.
Par mail. Ouais, c'est
ah
ça.
Oui,
ça,
oui, des dromacartes. Oui, c'est ça.
Ma mamie en envoyait plein.
Et depuis, ouais, et comme il y avait des virus la plupart du temps après, c'était dedans, trucs à la personne n'ouvre les fichiers joints.
Mais c'était à la mode, hein. Intense. Hein,
ouais, bah oui, oui, mais maintenant.
C'était quoi, c'était hébergé sur un site internet, tu cliquais dessus et t'arrivais sur un truc.
Bah c'est ça, tu mettais ton message et en fait, ça t'envoyait.
Bah non, cette année, vraiment rien du tout.
C'est parfait.
Bref, de toute façon, c'est bientôt fin janvier, on n'en parle plus. Hein. Allez, merci Sandra. On ira se promener dans un grand jardin dans une minute, juste le temps de mettre l'électricité dans toute la ville. Eh oui, avec le Graal.
Question de Mikado 49 de Montreuil-Juigné. Salut, on se tient au courant ?
T'es sûr que tu t'es pas trompé de chat, là ? Je me demande ce que je vais faire de ta question. Bon, mais t'inquiète, je vais trouver. Vous imaginez bien qu'avant que la ville ait l'électricité, elle n'avait pas l'électricité. Du coup, pour se tenir au courant, c'était pas gagné. Bon ben voilà, ça, c'est fait. N'empêche qu'à la fin du 19e siècle, on a installé des usines électriques au cœur de la ville. C'était des genres de gros groupes électrogènes qui marchaient à la vapeur. À Angers, c'est en 1900 qu'est implantée une de ces grosses dynamos, Quai Félix Faure, non loin du cinéma Gaumont. En 1902, cette mini-centrale alimentera 900 lampadaires dans la ville, à la place des versions à gaz. Voilà, Mikado 49, je sais pas si t'étais au courant, mais maintenant tu l'es.
C'était le Graal, à voir en vidéo sur les pages Instagram et Facebook, Question Graal. Vous pouvez nous poser vos questions depuis le site radio-g.fr, rubrique Contact. Allez, on en trouve dans toutes les grandes villes. Pourquoi, comment, d'où vient celui d'Angers ? Eh bien, on se plante devant lui et on l'accompagne dans son beau jardin. Écoutons la chronique de Robin.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais.
Ah, mais c'est parfait, ça nous fait voyager comme une petite balade dans le jardin des plantes. On a un très beau jardin qui est situé donc boulevard Carnot, à côté du centre des congrès. Et en fait, ce jardin a une histoire bien plus ancienne qu'on peut l'imaginer. Juste petit tour de table, à votre avis, il a quel âge ce jardin ?
200 ans.
Ah, ouais, peut-être plus que ça, oui, parce que c'est... Oui, c'est... Angers, c'est vieux. Hein.
Je dirais 100 ans.
Ouais. 300, allez, 1700... Ouais, 300, allez.
La fin du 18e.
Ouais. Eh ben, je dirais que, en fait, vous avez un peu tous raison, parce qu'il a 100 ans dans sa forme originelle, il a 200 ans dans son lieu actuel, et il a 300 ans dans sa... Non, il a pas 300 ans, pardon, il a 250 ans dans son principe de jardin des plantes.
D'accord.
Comme Bruno.
Oui, bah j'y étais.
Et oui, parce qu'en
c'est
fait...
C'est toi qui as planté. C'est moi qui ai planté le premier arbre. C'était un chou d'ailleurs.
C'est ça.
Ok, ça va.
Voilà. Non mais oui, en France, en fait, les jardins n'existent pas vraiment avant le 18e siècle. Enfin, avant le 19e siècle, pardon. En fait, la bourgeoisie se développe au 19e, les employés voient leur temps de travail diminuer pour au final avoir un peu plus de temps libre, ce qui leur permet de s'ennuyer et de se balader. C'est pour ça qu'avant, il n'y avait pas de jardin public, il n'y avait que des jardins privés. Notre jardin des plantes, lui, a pour origine première un jardin botanique privé pour des étudiants en horticulture. Et Angers était déjà, en fait, à la fin du 18e siècle, un centre d'horticulture et de botanique. C'est pour ça qu'on a déjà des élèves là-dedans. L'entreprise des botanophiles qui possédait ce jardin Rubressini achète 4 hectares de terrain aux moines de l'abbaye de Saint-Serge en 1789. Et oui, on a un univers où le jardin des plantes aurait pu être Rubressini.
D'accord.
Pourquoi pas ? Donc à la fin du 19e siècle, Auguste Giffard, un ancien et un citoyen généreux, offre à la ville des statues qui peuplent encore aujourd'hui le jardin des plantes. Depuis cette époque, de plus en plus de statues sont venues tenir compagnie aux compositions florales. Des sculptures de David d'Angers ou de François Cacheux y sont présentes, par exemple.
Elles sont assez dénudées, d'ailleurs.
Oui, il n'y a que des gens tout nus, ouais.
Non, mais c'est
pour le plaisir de certains.
C'est non, ça, mais c'est la nature. C'est, ouais.
C'est ça, oui.
C'est naturel.
Ça, c'est... Non, mais elles sont belles, en plus. Puis maintenant, il y a des choses un petit peu plus originales, un petit peu des papillons en fer, des... Voyez.
Wow. C'est Bruno qui traîne la nuit.
Après plus d'un siècle d'existence, le jardin, peu rénové, voit ses portes fermées au public en 1905. Parce qu'en fait, il y a eu une tempête très violente qui a dévasté le jardin. Et vu qu'il n'était pas très bien entretenu, bah, ça lui a donné un coup final. La ville en profite pour engager Édouard André pour remettre le jardin à neuf. Sauf que Édouard André, si comme moi vous connaissez pas, enfin vous connaissez pas trop l'histoire, bah vous dites c'est juste un citoyen normal. Mmh. Et non, c'est pas un simple paysagiste, c'est LE paysagiste. Un des plus renommés de France, et il travaille même pour des couronnes étrangères tellement ses talents sont admirés.
Wow.
Il décide donc de modifier le jardin des plantes pour lui donner un style de jardin à l'anglaise. Mmh. Et on fait une petite différence entre le jardin à l'anglaise et les jardins à la française. Puisque le style anglais en fait comprend des sentiers sinueux et des lignes de verdure aux formes irrégulières, ça rend le tout une atmosphère un peu plus frivole, un peu plus romantique. Mmh. Alors que les jardins à la française, ça va être un style très linéaire, très carré. On prend par exemple le jardin de Versailles ou bien tout bêtement le Mail, oui. Qui est beaucoup plus carré.
Le jardin du château aussi.
Oui, exactement. Et c'est lors de cette rénovation du jardin que sont apportées de nouvelles espèces végétales, notamment des arbres aujourd'hui centenaires. Et je pense aux Zelkova Zerata, qu'on appelle aussi orme de Sibérie, qui a fait la une, enfin peut-être pas la une, mais qui a été, qui a fait parler dans les journaux, dans les journaux
locaux. Le journal de TF1.
Quand même.
Ah non mais. Et en fait, c'est un très gros arbre qui est à l'entrée du jardin.
Un gros arbre.
Chacun fait les liaisons qu'il veut.
Mais tout à fait.
Tu as dit usine tout à l'heure.
Ok. Voilà. Très bien.
Donc,
ok.
Chacun fait comme il veut.
Bon bah gros arbre.
Non mais c'est le gros arbre avec un gros Z qui est
c'est pas mieux du coup.
Alors
du coup c'est pas mieux.
À l'entrée du jardin et en fait qui s'affaisse sur lui-même.
D'accord.
Et
ah,
qui a oui, 140 d'accord. ans.
C'est lui. Ouais.
Il a 140 ans, il est super vieux et en plus c'est assez rare puisque c'est un truc qui vient de Sibérie. Enfin,
ah oui.
Son origine est de Sibérie.
Oui, parce que lui.
Oui non,
faut le ramener quand même.
Donc ce jardin a vraiment connu une belle évolution, d'un simple jardin de travail privé rue Bressigny à la fin du XVIIIe siècle, il devient un grand jardin public, restauré et réaménagé en 1905 par un grand nom du paysagisme, il est aujourd'hui rayonnant avec ses quelques 25 000 plantes permanentes et 30 000 autres plantes saisonnières. Pour vous donner une idée, juste, il y a 200 ans, il n'y avait que 2000 plantes.
Oui. Voilà. Ah oui, ça va détrôner Terra Botanica bientôt.
C'est... non mais ça fait beaucoup de plantes et donc beaucoup de travail. C'est pour ça que les paysagistes de la ville travaillent tous les jours pour entretenir ce très beau jardin. Voilà, j'espère que la prochaine fois que vous irez dans ce jardin, vous le verrez d'un autre œil.
Oui, puis en plus c'est gratuit, c'est agréable. c'est vraiment sympa. Mais donc dans toutes les villes, il y a des jardins des plantes en fait. C'est quelque chose qui est arrivé. Donc tu dis c'était à partir du 18e.
Alors en fait des jardins des plantes peut-être pas forcément dans toutes les villes même si parce que c'est quand même un coût
dans les grandes villes souvent ouais.
qui est un peu plus cher ouais. parce qu'il faut avoir des plantes diversifiées il y a des plantes qui tiennent pas tous les hivers etc. Mais oui les jardins en fait sont arrivés 18e siècle d'abord évidemment à Paris parce que c'était
le terme jardin des plantes c'est quelque chose que quand on arrive dans une ville on n'est pas étonné qu'il y ait un truc qui s'appelle jardin des plantes
exact.
Parce que c'est quelque chose qui est maintenant commun dans la ville ça fait partie de
bah, ça fait partie des petits rayonnements
ce qu'il disait tout à l'heure ouais. les gens n'avaient pas de jardin donc forcément il fallait créer un espace comme ça dans la ville
l'idée de départ quand même des jardins des plantes c'est quand même d'avoir des espèces du monde entier enfin en tout cas d'avoir des
comme un zoo quoi faire découvrir un petit peu
en fait de c'est planter ça. Ouais. Et c'est pas planter des chênes, c'est pas planter des trucs qu'on a naturellement en fait dans nos régions. C'est vraiment d'avoir quelque chose
ramener de l'exotisme.
C'est ça. Ouais. Ou même d'acclimater en plus des plantes pour voir si elles s'adaptent.
Heureusement qu'il y a la douze orange mine parce que sinon c'est difficile.
Et à Angers, on a vraiment de la chance puisque Angers est quand même une des capitales du végétal et c'est pour ça qu'on a aussi l'arboretum vers la roseraie
aussi
qui lui en fait a plein d'espèces d'arbres différents.
D'hortensias et des hortensias différents.
Pitera botanica qu'on pourrait
toutes les espèces d'hortensias.
Ah c'est génial. Angers niveau de Serge.
Et les choux ils sont où?
Dans nos assiettes.
Merci Robin en tout cas pour cette chronique. Allez, on va retrouver maintenant les chroniques de notre youtubeur Franck Coty. Une leçon de musique aujourd'hui avec une suite de chansons reprenant le canon de Pachelbel. Et si vous connaissez, vous allez tout de suite reconnaître.
Yo les amis, c'est Franck Coty, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du canon en ré majeur pour trois violons de Pachelbel. Alors certains d'entre vous vont me dire je ne connais pas puisque je n'écoute pas de musique classique et pourtant vous êtes obligés de connaître cette musique de Johann Pachelbel qu'il a composée vers 1680 après Jésus-Christ quand même. Ouais ça a déjà presque 350 ans. Énormément de compositeurs se sont inspirés du canon de Pachelbel pour écrire leurs propres chansons. Des Village People à Kenji et Dadju, en passant par Michel Sardou, Paul Naref, les Beatles, mais aussi Maroon 5, Georges Moustaki, Claude François et même Casimir. Et d'ailleurs, je te le prouve tout de suite avec un petit medley que j'ai concocté rien que pour toi.
Viens avec moi et pends-toi à mon bras. Je me sens si seul sans ta voix, sans ton corps. Quand tu n'es pas là, elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans.
Here's to the one that we've got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all memories of everything we've been through.
Si vous me rencontrez, ne soyez pas terrorisés. Je suis le monstre qui fait rire. Je m'appelle Casimir.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything at once?
Je vous écris une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mon. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille.
Et si jamais c'était possible, j'enlèverais toutes les épines de ta rose juste pour te serrer dans mes bras.
C'était Franck Coty dans CMA, vous le retrouverez sur sa chaîne YouTube Franck Coty. Abonnez-vous, il y a plein de vidéos vraiment cool. Allez, il est maintenant temps de connaître le gagnant de la dernière émission. En effet, à chaque émission, les auditeurs votent sur les sujets qui les ont plus intéressés dans CMA. Histoire de bien mettre la pression sur les chroniqueurs, on délivre à chaque fin d'émission le CMA Plus de l'émission précédente. Et le résultat, eh ben, c'est maintenant. Alors, qui a gagné cette semaine? On a eu la dernière émission, les sauces. On se souvient avec Florian, les films religieux avec Olivier, le commerce équitable avec Jérémy, se mettre sur 131 avec Caro, le velcro et les origines d'échecs. Oui, il a des sujets.
Sauces.
Avant, oui, c'est ça. Avant, t'as pas écouté? Faut
écouter. Je vais l'écouter.
Ah, faut l'écouter, ça vaut. Clairement. Ah, ça vaut.
Les sauces.
Ah oui, allez. C'est très pimenté comme. Bon, je suis un peu embêté parce que le sujet qui est le plus de voix, c'est celui sur l'origine des chèques. Vous vous souvenez, on a parlé des chèques, d'où venaient les chèques barrés, etc.
Ah, oui.
Et vous vous souvenez du chroniqueur qui a parlé de ça?
Plus.
Hein? Bah oui, c'est moi, donc je suis un peu embêté. Donc,
ah bah, bravo.
cette fois, c'est moi qui ai le CMA+. Voilà, je m'auto-proclame d'avoir le CMA+. Donc vous allez pouvoir écouter cette chronique sur la rubrique Podcast Plus du site radio-g.fr.
Avec celle des sauces.
Et avec celle des sauces, qu'il faut bien sûr prendre. Okay. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci à nos chroniqueurs et queuses du soir. Merci Sonia. Merci Olivier. Merci Florian.
Merci.
Merci Robin.
Merci.
Merci Sandra.
Merci
Cisco.
Merci.
On embrasse bien fort le reste de l'équipe que vous retrouverez dans les prochaines émissions. Hein. Pauline, Mathias, Caroline, de loin,
Un mètre.
Manu et puis Jérémy. On se retrouve dans 15 jours, même heure et même endroit. Et d'ici là, n'oubliez pas qu'on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.